Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il?
Bah, l'arrêt complet du travail.
Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
Nous partons en Espagne, comme d'habitude.
Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi.
Le touriste veut tout voir, tout savoir.
Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et les deux tailles, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés.
On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant. Faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci.
Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le verre à moitié plein, votre rendez-vous bimensuel dédié au tourisme durable. C'est avec une joie non dissimulée que je commence cette année 2024. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année. Donc je commence cette année 2024 avec un invité qui nous est fidèle depuis le début. Il s'agit de Day Mike, le fondateur de l'organisme de colonies de vacances engagées Globe Écolo. Habituellement, chaque épisode du Verre à moitié plein explore une facette du tourisme durable, que ce soit sur le plan environnemental, culturel ou socio-économique. Cet épisode est un petit peu différent puisqu'il vient faire le trait d'union entre ces trois piliers fondamentaux. Nous parlons de l'accès aux vacances pour tous et de l'impact des colonies de vacances dans la construction des jeunes, mais aussi Day Mike nous raconte comment il crée un séjour équilibré qui allie découverte culturelle sans folklorisation et respect de la nature et du bien-être animal. Et on discute aussi de la problématique des transports et des émissions de CO2 et de pourquoi il est important pour l'équipe Globe Écolo d'inclure dans leur séjour des projets environnementaux et sociaux avec des associations et des scientifiques. Bref, c'est un véritable exercice d'équilibre que l'équipe de Globe Écolo semble maîtriser avec brio. Je vous invite donc à rester avec nous pour découvrir les coulisses de la création d'un séjour engagé. Bonne écoute à tous.
Bonjour Élise.
Ouais, je suis ravie de t'accueillir, c'est la troisième fois qu'on t'accueille sur le verre à moitié plein, tu es notre invité le plus fidèle.
Bah, ça fait plaisir, merci.
Voilà, tu étais présent sur toutes les saisons, 2022, 2023, 2024
maintenant.
Exactement. Donc il y a 2 ans, tu nous avais parlé donc, de Globe Écolo, quand le projet était encore un projet de financement participatif. L'année dernière, le projet a été lancé, donc on avait parlé du séjour dans les Calanques. Et là, le projet est encore plus commencé. Et on vient parler de la Thaïlande.
Exactement.
Donc nous, on commence à se connaître, mais pas forcément nos auditeurs. Et alors, cette année, on a eu les statistiques du podcast de Spotify, la rétrospective Spotify. 93% de nos auditeurs nous ont découvert en 2023.
D'accord.
Donc, pour tous ces gens-là, je propose que tu te présentes rapidement à nouveau.
Ça marche, pas de problème. Du coup, je suis Demike, je suis le fondateur de Globe Écolo. Globe Écolo, c'est un organisme de colonies de vacances dont les séjours sont spécialisés et liés à l'économie sociale et solidaire. Donc, avec une volonté forte de permettre aux jeunes de contribuer pendant leurs vacances à un moment donné sur les axes et les piliers de l'ESS, que ce soit le développement durable, le voyage responsable, les liens intersociaux ou interculturels, et cela pour des jeunes entre 6 et 25 ans, que ce soit en France ou à l'étranger.
Ok. Et comment est-ce que ton parcours a un petit peu influencé la création de Globe Écolo et son attachement aux trois piliers du développement durable?
Beaucoup, arrivé jusqu'à Globe Écolo, au final, plus le temps passe, plus je me dis que c'était presque écrit, en fait, dans le sens où ça fait 20 ans maintenant que je suis dans les colonies de vacances, que j'encadre des séjours. J'ai eu la chance, grâce à ce biais-là, de découvrir le monde, de m'enrichir à ce niveau-là. Ça fait 12 ou 13 ans maintenant que je travaille auprès de différentes organisations et organismes pour proposer des séjours aux jeunes. Donc l'idée de monter un séjour qui me parle, qui ressemble et qui rassemble mes valeurs, c'était presque la suite logique, du coup. Et l'idée de s'ancrer dans l'ESS, dans le tourisme durable, c'était fort pour moi, parce que comme je disais, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu le monde, c'est une richesse incroyable, mais il est important de prendre conscience et que nos futures générations, nos jeunes pousses puissent aussi avoir cette vision-là, de pouvoir découvrir le monde tout en ayant une conscience des enjeux forts, notamment environnementaux, qui sont liés au voyage. Et ça, c'est important pour moi d'arriver à transmettre ces valeurs-là.
C'est des années d'expérience, de cumul d'expérience, jusqu'à arriver à un point où tu t'es dit, maintenant c'est à moi de
prendre les choses en main, de mon côté, mettre ma petite brique, ma pierre à l'édifice parmi l'ensemble des solutions qui sont proposées, apportées par d'innombrables associations, collectifs, scientifiques. Moi, j'ai un certain savoir-faire sur la création de séjours et je voulais le mettre à profit de cet idéal-là, quoi.
Et concrètement, comment est-ce que tu arrives à intégrer les piliers du développement durable dans ton séjour? On va voir tout à l'heure en détail l'exemple de la Thaïlande, on avait vu du coup Marseille l'année dernière, mais dans les grandes lignes, à quoi un petit peu ça correspond, surtout quand on propose des destinations aussi différentes?
Alors, l'idée, c'est de bien avoir en tête que l'ADN de Globe Écolo intègre. Le mode opératoire dans la conception des séjours se fait à travers ce prisme-là et celui de l'ESS. La dimension économique en soi, du coup, qui est indispensable, avec cette volonté de s'assurer que chaque acteur du projet est rémunéré ou payé ou dédommagé à sa juste valeur, sans essayer de diminuer ou de déprécier les apports, parce que pour le coup, ça crée une richesse sur place. Du coup, pour moi, le lien entre l'économie et le social est présent, dans le sens où, avec plus de moyens, on permet à certaines personnes, certaines communautés, certaines populations de sortir progressivement de la pauvreté, de la violence, de la fragilité ou la précarité, ce qui apporte quelque chose d'extrêmement fort socialement. Du coup, on peut diminuer, on en parlait, les vols par exemple, on peut pousser les familles à laisser plus longtemps leurs jeunes à l'école, les pousser à l'éducation, à l'alphabétisation, et c'est un des enjeux que l'on a dans le tourisme. Et bien sûr, la partie environnementale, c'est d'essayer de diminuer au maximum à la fois son empreinte, sa marque et sa trace sur place, en prenant en considération le mode de vie local et des communautés que l'on approche, des paysages que l'on découvre, etc.
Il faut bien connaître chaque destination parce que chacune a des problématiques différentes.
Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Je ne peux pas proposer des séjours aux jeunes sans être sûr que c'est viable pour eux comme voyage, comme contenu, qu'il y a la sécurité qui va avec pour assurer les familles. Donc moi et désormais mon équipe, puisque voilà, Globe Écolo grandit, mon équipe va elle-même aussi sur le terrain, sur les séjours, continue à encadrer, rencontre nos partenaires, s'assure de la viabilité des projets, de l'avancement des projets et des liens qu'on crée avec les populations. Moi-même, c'est le cas, il n'y a rien dans ce que propose Globe Écolo qui n'a pas déjà été testé, validé et expérimenté déjà une première fois par moi ou l'un des membres de l'équipe, ce qui nous permet de nous assurer que la construction du séjour est pertinente.
Tu te parlais tout à l'heure du point de vue économique, social. Le tourisme durable, c'est aussi le tourisme pour tous. Surtout pour les jeunes. Est-ce que tu as des partenariats avec des comités d'entreprise pour comment...
Alors oui, effectivement, on essaie de travailler sur plusieurs angles. Les colonies de vacances, et ça je parle pour l'ensemble des organismes de colonies de vacances, c'est un véritable vecteur de mixité sociale. C'est un des outils, on ne peut pas s'en passer à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est une exception culturelle française aussi, hein, du coup. Et l'idée, c'est de renforcer ces liens-là, cette mixité-là, grâce aux colos. Les CSE, les comités d'entreprise, sont un bon outil pour cela, mais il y a d'autres acteurs. Globe Écolo, par exemple, il y a plein de partenariats, collaboration avec, par exemple, l'entité Colo Solidaire, du coup, qui permet de proposer des séjours à prix solidaire, notamment pour les personnes avec un QF de moins de 1 000 euros, du coup, un quotient familial de moins de 1 000 euros. On a un des membres de l'équipe qui est au conseil d'administration de l'association Vivre Ensemble, ici basée à Toulouse, qui travaille auprès de jeunes des quartiers prioritaires de la ville, du coup, qui permet justement de pousser et d'inciter les jeunes et les familles plus modestes, plus fragiles, à participer à l'aventure des colonies de vacances. Donc, ça fait partie des enjeux et des travaux que l'on veut mettre en place pour 2024, maintenant que Globe Écolo est un peu plus établi.
Bon, ça, c'est vraiment bien de le préciser comme ça, au moins. Bah, tous les jeunes ont leur chance de
Exactement.
Faire c'est, une colo.
C'est totalement l'idée. Si on continue, surtout quand on voit... on a tous subi un petit peu l'augmentation des tarifs à ce niveau-là. Il faut qu'on puisse être en mesure de maintenir la possibilité à tous de pouvoir participer au colo. Et ça, c'est un de nos combats que l'on veut mener dès 2024, du moins que l'on veut accélérer en 2024, de manière à nous assurer que notre désir et notre volonté de mixité et de voyage pour tous est présent sur nos séjours.
Maintenant, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de la Thaïlande, plus en détail. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût du voyage, l'itinéraire, la durée
Oui, alors pour le coup, la Thaïlande, on a deux types de séjours. On a un séjour assez court pour les petites vacances, en 9 jours, et un autre plus long pour les grandes vacances, en 18 jours. Je suis très content d'avoir pu effectuer le séjour en 18 jours à l'été, là du coup, l'été dernier, 2023, qui en fait fait une sorte de grande boucle, en partant de Bangkok, bien sûr, où on monte ensuite du côté de Chiang Mai, qu'on découvre la ville, on part ensuite dans les communautés Karen, dans les terres Karen. On redescend ensuite un petit peu du côté de Sukhothai, qui est l'une des anciennes capitales de Bangkok. Et ensuite, on file progressivement du côté d'Ao Nang, c'est pas très loin de Krabi, où là, on travaille avec l'association Nature Minded, une association incroyable, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le podcast,
oui.
qui nous permet de faire de véritables travaux avec un impact immédiat et présent. Et donc, en fait, on reste un peu de temps sur place avant de repartir depuis Bangkok.
Une question que je me posais, c'est donc vous visitez un peu toutes les parties de la Thaïlande, qui est un assez grand pays. Est-ce que c'est possible là-bas d'avoir des transports on va dire plutôt bas carbone, comme le train ou le train de nuit?
Oui, totalement. Ah bah pour le coup, c'est la priorité. C'est comme ça que l'on fonctionne, en tout cas, dès 2024. Donc, effectivement, on arrive sur place en avion. Par contre, on utilise exclusivement des trains, notamment des trains de nuit, du coup, notamment pour faire la connexion entre Bangkok et Chiang Mai, ou entre Bangkok et Surat Thani pour aller à Ao Nang. C'est du train de nuit, on a supprimé l'ensemble des vols intérieurs, du coup, qui n'apportaient pas de plus-value. Et en fait, on s'est tout simplement rendu compte que les jeunes, kiffaient le train de nuit, tout simplement.
C'est une expérience...
Exactement, c'est une expérience forte, et il y a tellement de temps fort en séjour que la possibilité de dormir un petit peu plus tôt en colo et n'est pas repoussée tout de suite par les jeunes. Donc non, c'est l'idée vraiment, c'est de prendre le maximum de transports locaux.
Aussi, j'avais vu que le séjour comprenait des moments avec des éléphants, avec la communauté Karen. Bon, je pense que c'est de plus en plus connu, toutes les dérives qu'il peut y avoir avec les éléphants en Thaïlande, mais dans d'autres pays aussi, avec les balades à dos d'éléphants, etc. Je voulais savoir comment vous avez découvert ce lieu, comment vous vous assurez qu'il veille vraiment au bien-être de l'animal.
Pour le coup, c'était un véritable enjeu. Effectivement. Alors, on a eu la chance d'avoir un membre de notre univers autour de nous qui s'appelle Animal Travel,
qui c'est est, Justine.
Exactement, qui a eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil déjà en amont sur ce qui est fait et les pratiques liées aux activités touristiques avec les animaux, donc qui nous a donné quelques signaux assez rassurants. Après, clairement, j'avais besoin d'aller sur place pour vérifier. C'est aussi pour ça que je suis parti encadrer ce groupe. Sur la partie éléphant dans le nord de Chiang Mai, j'ai été satisfait de ce que j'ai vu, puisque déjà pour moi c'était hors de question de monter sur le dos d'un éléphant. C'est peut-être que moi, mais en tout cas c'était important pour moi de mettre une limite à ce niveau-là. Et le soin que l'on peut apporter devait assurer le bien-être de l'éléphant. Donc si on pouvait éviter au maximum de le toucher, déjà c'était quelque chose de pas mal. Alors après, avec des ados qui voient des éléphants parfois en vrai pour la première fois, c'était pas évident d'éviter les caresses, etc. Donc on a essayé de faire le plus attention possible à ce niveau-là. Quand ils ont pris leur bain, on les a pas touchés, tout simplement, du coup. On prenait des seaux pour cela. Mais l'idée, c'était de s'assurer que déjà cette partie-là était forte, et que aussi l'aspect nutrition de l'animal était raisonné et non pas effectué pour le touriste. Certains spots donnent de la nourriture qui serait presque comme des Snickers pour nous, aux éléphants. Non, l'idée c'était de travailler le tamarin, de travailler le mil, le blé, etc. pour en faire des petites boules que l'on donnera ensuite aux éléphants et qui soient nutritives et qui ne s'apparentent pas de la confiserie.
J'imagine que c'est bien aussi comme expérience, parce que ça permet de... C'est une opportunité de sensibiliser les jeunes aussi à ça.
Totalement, effectivement, que prendre soin d'un animal, ça demande un certain engagement, que ça demande du respect. Ça demande aussi de la prudence, parce que les animaux, même entre guillemets domestiqués, restent des animaux qui ont leurs propres réactions, qui ont leurs propres interactions. Donc arriver à comprendre cela, c'est important, et être en mesure d'expliquer que maintenant, du coup, tu peux pas monter sur le dos d'un éléphant. Le parallèle est assez vite fait avec les ados, qui comprennent assez vite ces enjeux-là au final. Et certains sont très engagés dans cette cause-là, et ça nous facilite le travail.
Ouais, c'est bien. Après, quand ils deviennent adultes et qu'ils font leur propre voyage, ou exactement, même des enfants,
exactement,
le travail est déjà fait.
Exactement, et le cycle du voyage est enclenché, du coup, du voyage un peu plus vertueux, responsable en tout cas.
Toujours du coup avec le peuple Karen, j'ai vu donc sur votre site, il y avait écrit... qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution pour les touristes et que vous évitez la folklorisation. Oui. Pareil, je voulais savoir comment vous arrivez à détecter ce genre de dérive qu'il peut y avoir, en quoi c'est important.
J'ai eu l'occasion, à travers les fameuses 20 années de colo, de voir de temps en temps des scènes qui sont un peu surprenantes, où on se dit, on est avec des populations traditionnelles qui essayent de nous véhiculer un petit peu leur culture, et on se rend compte après que ils ont une vie plus occidentale que traditionnelle, et en soi, ça peut être une super bonne chose, du coup, mais l'idée, c'était d'aller plus loin dans le projet et de montrer aux jeunes que justement il y a des personnes qui vivent plus loin de notre occidentalisation, du coup, et d'aller au cœur de leur quotidien. Alors clairement, mon avis, c'est que sur cette expérience de 2023, on n'est pas allé suffisamment loin. Donc on va faire l'effort cette année. On a retravaillé une partie du partenariat de manière à aller plus loin dans cette démarche-là de rapport et d'échange encore plus authentique. Donc là, on a eu la chance, on avait une famille qui était très accueillante, avec un petit garçon avec lequel on a fait des parties de Uno, on a joué au foot, on a cuisiné avec les parents. C'était vraiment vraiment cool. Mais je pense qu'on a encore la possibilité d'aller plus loin dans le travail auprès de la vie quotidienne de cette population. Je sais que c'est possible, et donc on a mis en place certaines choses pour aller encore plus loin en 2024.
Ouais, ça ne doit pas être facile, en fait, je me dis, de trouver le plus authentique possible quand on n'habite pas sur place.
Exactement, c'est pas évident, et c'est ce qui fait, ce qui doit faire la force de Globe Écolo, c'est que On se rendra sur place le nombre de fois nécessaire pour que l'on soit sûr que ce que l'on apporte aux jeunes est une expérience à la fois atypique, unique et authentique. C'est notre priorité. Donc si l'expérience est moins bonne, eh ben, on la change, on la modifie, on la travaille. C'est un projet en construction, en co-construction avec les parents, avec les jeunes, avec les organismes qui envoient les enfants. C'est un vrai travail collaboratif.
Et en parlant de travail collaboratif, tout à l'heure tu disais que tu voulais parler de l'association.
Oui.
Donc là on en vient, parce que dans beaucoup de vos séjours, il y a toujours une partie avec des associations, avec des experts, des scientifiques.
Exactement.
L'année dernière à Marseille, on avait parlé de pas mal d'assos, je me rappelle de
Phil Michaelanc. Exactement, alors Phil Michaelanc nous avait orienté vers l'asso Merter, qui est une super asso du coup à ce niveau-là, dont la responsable quelques récompenses récemment aussi, du coup, qui travaille avec nous effectivement sur les calanques pour, dans le projet Adopt un Spot, du coup, qui nous permet de suivre un peu l'évolution de nos nettoyages de calanques et de faire les remonter au ministère de l'Environnement. Oui. Là, sur la Thaïlande, on travaille avec Nature Minded, une association incroyable, qui a été monté par un Français donc sur place, qui a eu l'occasion de barouder, de rouler sa bosse, qui est lui-même docteur en écologie, du coup, et qui s'est entouré de différents types de scientifiques, des experts en biologie marine, en granulés, etc., etc., et qui travaille avec les populations locales, avec le temps que ça prend, pour stimuler à la fois l'économie locale et s'assurer de la préservation de l'environnement, parce qu'on n'est pas très loin d'une ville comme Krabi, qui est très touristique et qui peut faire venir progressivement du monde jusqu'à cette région-là,
Daonang.
C'est
le sud de la Thaïlande.
Exactement, on est dans le sud-ouest de la Thaïlande, pas très très loin de la frontière avec la Malaisie.
Okay.
Du coup. L'idée, en fait, c'est de créer des situations où les jeunes vont épauler les scientifiques locaux dans certaines disciplines sur leur travail, tout en leur permettant de vivre une expérience un peu ludique. Par exemple, là, ce que l'on a fait, nous, l'été dernier, on a travaillé donc avec Andy, qui est l'expert en biologie marine, spécialiste des coraux. Il a fait son master sur le sujet en Italie, parce qu'il est italien, et qui nous fait donc un véritable workshop. On est à deux doigts du cours de SVT au final, en anglais, sur comment fonctionnent les coraux, les terminologies, la place du corail dans l'écosystème, la place du tourisme dans cet écosystème avec les coraux, etc., etc. Et ensuite, quand on a assimilé cette donnée-là, on part en mer avec son équipe de scientifiques, où là, on travaille en snorkeling, du coup, avec la possibilité de faire de l'apnée en snorkeling, pour aller identifier les coraux avec un papier, avec un camaïeu de couleur dessus, qui distingue les différentes catégories de blanchiment des coraux, les différents types de coraux. On les identifie avec les jeunes sous l'eau, on les remonte aux scientifiques qui sont sur le bateau, pour qu'ils puissent mapper les coraux à changer et faire le monitoring afin de revenir après eux avec leurs équipes pour soigner le corail. Du coup.
C'est
une aventure extraordinaire du coup. Et donc on travaille sur d'autres aspects en 2024 notamment. C'est quelque chose qui va être vraiment cool de faire un peu le même type d'aventure avec du kayak. Pareil, on se fait une belle partie de kayak dans les mangroves avec les décors quasiment comme dans des films. Et au final, on s'arrête dans la mangrove et on commence à planter les différentes graines et peindre pour la reforestation de la mangrove, notamment, du coup, avec Chris, cette fois-ci, du coup, un autre scientifique qui nous balade, en fait, dans la zone où il travaille, lui, avec son équipe.
C'est trop bien, parce que ça mêle une activité ludique, un truc qui est très sympa.
Totalement.
Mais avec une partie travail, mais on ne s'aperçoit pas que c'est du travail.
Exactement, effectivement. En fait, on a fait en plus à des scientifiques qui sont relativement jeunes, en plus, donc on est loin du vieux barbu avec la robe blanche, etc. Enfin, la blouse blanche. On est vraiment sur une équipe assez jeune qui a envie de transmettre. Et ça, c'est déjà top d'arriver à transmettre sa passion dans une science. C'est top. Avoir cette volonté de faire comprendre aux jeunes la place de l'écosystème dans leur propre vie, du coup, et dans tout le milieu environnant, c'est extraordinaire. Et d'avoir pu y glisser des activités ludiques pour amener les jeunes à se passionner de ces domaines-là, c'est incroyable. Et
donc, c'est trop bien, ça nous donne des vocations aussi à des jeunes.
C'est ce que j'espère.
Voilà. Surtout s'ils voient que le scientifique est jeune, un peu fun.
Oui, totalement, oui, ils sont complètement, complètement délurés. En plus, certains moments, c'est vraiment génial. Et ça donne vraiment une vraie coloration différente à la colonie de vacances. Et c'est extraordinaire. Les jeunes se retrouvent dans un endroit au pied d'une montagne, à dormir dans une tente au pied de la montagne, couverts par la grotte, qu'ils peuvent escalader s'ils le souhaitent, avec les singes qui viennent le matin, etc. Puis, hop, ils se réveillent. La cuisine est incroyable sur place. Et au final, ils partent avec un scientifique à l'aventure. Pendant une journée, ils sont scientifiques prêts à se retrousser les manches et à participer à l'élaboration d'un écosystème plus viable sur place. C'est formidable. Pour les jeunes, en termes d'expérience, je trouve ça incroyable.
Et là, c'est la Thaïlande, mais il y a des activités similaires sur tous les séjours proposés
Plus ou moins, oui, effectivement. On a le même type de situation. Là, je reviens du Guatemala, par exemple, où on travaille auprès de la communauté de Tsutuil, au lac Atitlan, sur différentes approches, notamment sur la plantation de roseaux sur le lac pour prévenir à la fois de la pollution liée aux déchets du lac, mais aussi favoriser l'écosystème, notamment pour les poissons et les pêcheurs qui sont sur place, du coup. Sur le Mexique, on travaille avec Victor, notamment du côté de Marawal, personnage haut en couleur lui aussi, expert en survie, du coup, avec lequel on travaille sur la protection des tortues qui sont en période de ponte. Donc on est là à la fois pour être suffisamment discret pour laisser les tortues pondre sereinement et s'assurer que les œufs sont bien viables, que les trous sont solides, et en même temps être suffisamment présent pour empêcher la présence des jaguars. Qui sont des prédateurs importants sur la région. Donc voilà, il y a un travail aussi à ce niveau-là de monitoring qui est assez important après le lâcher de bébé tortue au petit matin, du coup. Donc c'est l'expérience que les jeunes n'oublient jamais.
J'imagine, c'est trop bien. Maintenant, je te propose qu'on parle de l'après-séjour. Voilà, c'est déjà le temps d'entrer à la maison. Comment ça se passe, l'après-séjour? Est-ce que vous faites un bilan avec les jeunes pour voir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu du séjour, ou leurs améliorations aussi?
Oui, on fait un bilan sur place. À la toute fin du séjour, du coup, sur le chemin du retour, expliquer avec les enjeux du bilan. On a fait le choix de le rendre anonyme, de manière à ce que chaque jeune, déjà, puisse se dire qu'il peut parler librement. Et pour coupler cette volonté de parole libre, on le propose avec un QR code ou un lien sur lequel ils répondent, en fait, directement depuis leur téléphone. Okay. Donc ça permet d'être sûr que les réponses sont anonymes et les équipes sur place, potentiellement, celles qui voudraient un peu tricher, entre guillemets, ça n'arrive pas chez nous, on ne sait jamais, du coup, c'est impossible à ce niveau-là. Donc, les jeunes peuvent parler librement, c'est un questionnaire qui leur demande quelles sont leurs affinités, parce qu'en fait, quelqu'un qui va sur un séjour nature alors qu'il est plutôt ville, son a priori sur le séjour est pas le même. Celui qui préfère la plage et qui se retrouve avec plein d'animaux, peut-être que sa perception n'est pas la même du séjour. Ce genre de choses, il est expérimenté dans l'écolo, et ensuite on détaille, du coup, y compris sur l'approche ESS et l'action de contribution de Globe Écolo. Et après ça, les familles aussi reçoivent un questionnaire un peu différent pour voir s'ils ont vu des changements sur leurs jeunes. Est-ce que ça a donné à leur enfant la volonté de faire d'autres actions? On se rend compte que de temps en temps, oui, et de temps en temps, pas du tout, au final. Mais ça nous permet d'avoir une belle visibilité de notre action. Ça donne la parole à tout le monde.
C'est intéressant. C'est vrai que j'ai fait pas mal de colos et il n'y a jamais eu un questionnaire comme ça
Alors, ça se fait de plus en plus, j'ai voulu changer le mode de ce questionnaire-là, de le rendre plus sympa, plus moderne, plus détendu, avec des questions un peu variées, avec des comparaisons, etc. C'est quelque chose qui soit vivant, qui corresponde à un questionnaire de colo et pas un simple questionnaire de satisfaction de la FNAC, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. Et pour les parents, c'est la même chose. Je veux vraiment que chacun des acteurs puisse être impliqué. Et là, on a déjà deux ou trois partenaires de type CSE qui nous ont posé la question. Est-ce que vous pouvez nous faire parvenir votre exemplaire de questionnaire? Parce qu'on le trouve plutôt sympa et on voudrait voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez flatteur.
Oui,
mais ça, c'est plutôt cool, mais ça veut aussi dire que les CSE veulent s'engager dans cette démarche-là. Et ça, c'est extrêmement bon. C'est extrêmement bon.
C'est motivant.
Exactement.
Et est-ce que tu peux nous partager une anecdote d'un jeune qui a particulièrement bénéficié de l'expérience Globe Écolo, où tu sais que ça a eu un impact direct après dans sa vie?
Alors, oui, à ce niveau-là, Je pense à deux jeunes en particulier que j'ai eu, mais pas sur la Thaïlande. Je sais pas si j'ai le droit de faire cette entorse.
Oui, bien sûr.
C'est top. Et du coup, oui, je pense à deux jeunes avec qui je suis parti à l'hiver dernier sur mon séjour à Paris, sur la cuisine du monde, où les jeunes apprennent la cuisine du continent asiatique, africain, sud-américain, avec des chefs locaux et natifs, et ensuite qui reproduisent c'est ce qu'ils ont appris en cours de cuisine, en plus grande quantité, pour le distribuer en maraude. Du coup, l'expérience est assez intense pour les jeunes, pour des préadolescents, mais c'est quelque chose qui se vit tellement bien à ce niveau-là. Et j'ai eu la chance, du coup, de voir et d'apprendre que deux des jeunes de ce séjour-là se sont revus après. Ici, elles sont basées à Toulouse. Elles se sont revues après, elles ont fait une grosse session de cuisine de gâteaux, de pâtisserie, pour les redistribuer après en maraude dans leur village à eux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment cool de prendre cette initiative-là à partir de ce moment-là qui a été vécu. J'ai vraiment été touché par ces deux jeunes filles et je suis très content qu'elles aient pu se dépasser à ce niveau-là. Et j'espère qu'elles vont continuer avec cet engagement progressivement, sans pression bien sûr, parce qu'elles n'ont pas toute cette responsabilité-là, elles. Mais donner un petit coup de main quand on voit des personnes fragiles à cet âge-là, c'est très fort.
C'est génial, ouais. Et s'il y a des parents qui nous écoutent ou même des enfants, est-ce que tu pourrais leur donner trois bonnes raisons de partir avec Globe Écolo?
Alors, trois bonnes raisons. Alors, je pense d'abord, alors ce ne sera pas forcément spécialement avec Globe Écolo pour la première. Je pense que tout simplement, le concept de colonie de vacances est une expérience presque unique à faire vivre à son enfant. C'est vraiment un moment où il a la possibilité d'être lui-même avec ses pairs, sans le regard des adultes, en tout cas des adultes référents dont il a l'habitude. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir autour de soi comme dispositif et le garder même en mode de garde, entre guillemets, mais aussi comme une expérience de vie pour votre jeune. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Après, j'aurais envie de dire en deuxième raison, Globe Écolo, c'est un organisme qui est à taille humaine, qui est assez petit. Du coup, on fait vraiment un maximum d'efforts pour être attentif aux détails pour chaque famille et que chaque famille se sente l'individualisation du suivi de son jeune, du début à la fin. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare dans un univers où il y a de plus en plus de monde. Et faire confiance à Globe Écolo sur cet aspect-là, c'est quelque chose qui vous est rendu vraiment à ce niveau-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plusieurs familles là à ce jour. On a quasiment 20% de jeunes qui reviennent en colo les années suivantes. Tous les CE qui se sont engagés une première fois reviennent travailler avec nous. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait. Et enfin, la raison, c'est que... La troisième raison, je dirais, la particularité des concepts Globe Écolo. C'est cette idée de dire, Est-ce que vous avez la possibilité de voir votre enfant contribuer à quelque chose qui est, peut être un tout petit peu plus grand que lui tous les jours? Non, c'est rare. Vous dire que bah, vous faites partir votre jeune, votre enfant sur une aventure comme la Thaïlande, comme le Mexique, comme Bornéo, comme Toulouse, tout simplement, du coup, avec des jeunes de 6 à 9 ans qui vont travailler avec des assos comme The Sea Cleaners pour la pollution plastique, tout en s'amusant à découvrir leur propre ville, c'est rare. C'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, donc si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas, si la tentation est là, succombez à celle-ci.
Super, très beau message, merci. Et pour conclure, est-ce que voilà, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, enfin retrouver Globe Écolo, les séjours et les dates pour la Thaïlande et pour... Voilà.
Oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, on est présent, nous, de toute façon, par défaut sur Internet. On a un site Internet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et on a Elsa, chez nous, notre chargée de com, qui fait un travail exceptionnel sur le site. Et là aussi, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu sa tête, d'ailleurs.
Oui, mais vous êtes très, très présent sur les réseaux. Vous êtes
Alors,
partout.
Pour le coup, on essaie d'être présent, effectivement, parce qu'on est content de ce que l'on fait. Et on a envie que les gens le sachent. c'est aussi simple que ça. Et on prend du plaisir à le faire aussi. Clairement, on en parlait encore hier avec Elsa sur notre approche sur TikTok. Peut-être aller encore un peu plus dans le fun ou quoi que ce soit. Après, on a toute l'équipe qui travaille sur le contenu des séjours. Je pense à Dexter, je pense à Jules, qui sont très présents. Engagés dans le projet et qui mettent toute leur créativité pour trouver les meilleures approches pour les séjours. Et tout ça, c'est trouvable sur notre site internet directement. Donc il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Il y a un numéro de téléphone. Alors, à ce jour, c'est encore le mien. Il faut que je change ça. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Nous solliciter sur les réseaux aussi. Et sur certaines plateformes particulières, comme par exemple les Floqués aux Portes.
Par exemple. Trop bien, merci. Je mettrai tout ça dans la description du podcast.
Super, avec plaisir.
Et puis voilà. Merci encore d'être venu encore une fois à Toulouse.
C'est toujours un plaisir, Élise, et je suis très heureux d'avoir pu faire ce nouveau podcast.
Moi aussi. Hop, voilà.
Bientôt.
C'est la fin de cet épisode du Verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.